Alors il va falloir s'arrêter, parce que c'est la fin de l'année, ou plutôt la fin de la saison, il va falloir dormir, il va falloir surtout sortir. Et ce matin, je voudrais vous dire à quel point c'est compliqué de s'arrêter, même temporairement. Dans les études de narratologie, on étudie parfois à la fin du récit l'importance de la clôture. Et un certain Roland Barthes, qui est mon idole absolue en matière d'écriture et de pensée, disait qu'il n'aimait pas les fins. Dans Roland Barthes, par lui-même, il se raconte à la troisième personne et il dit ceci. « Aimant à trouver, à écrire des débuts, il tend à multiplier ce plaisir. » Voilà pourquoi il écrit les fragments. Autant de fragments, autant de débuts, autant de plaisir, mais il n'aime pas les fins. Le risque de clausule rhétorique est trop grand, crainte de ne pas savoir résister au dernier mot, à la dernière réplique. Un peu plus loin, l'effort vital est de mettre en scène un imaginaire. Le rêve serait donc ni un texte de vanité, ni un texte de lucidité, mais un texte aux guillemets incertain, aux parenthèses flottantes. Ne jamais fermer la parenthèse, c'est très exactement dérivé. Ben voilà ce qu'on a cherché à vous proposer pendant 4 années, bientôt une 5e, des dérives. Chaque matin, des parenthèses flottantes, jamais terminées. Je voudrais vous remercier, alors des points finaux et des jugements fermés, de les avoir embrassés, vous dire à quel point c'est toujours difficile aussi de s'arrêter quand on essaie d'ouvrir.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est de ceux que rien n'arrête. Légende du film d'action, il est le Belge le plus célèbre au monde. À la fin du mois d'août, il sera à l'affiche de Lucas de Julien Leclerc, un thriller fiévreux, diablement réussi, dans lequel il incarne un père de famille prêt à tout pour protéger sa fille, qui va malgré lui se trouver mêlé à une sombre histoire de mafia. Bonjour Jean-Claude Van Damme.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Pourquoi est-ce que vous vous arrêtez jamais, vous ?
Si on s'arrête, je sais pas, il faut créer, non ?
Ouais.
On est ici pour créer, que ce soit n'importe quoi, on est ici pour travailler, avancer.
Il y a eu des moments où vous avez failli vous arrêter, où le doute a pu vous faire hésiter à aller plus loin, ou pas ?
Oui, oui, oui. Mais ma qualité était que j'étais tout à fait consistant. Hein. Consistant equal faith, hein, la foi. Consistance égale foi. J'avais donc la foi de continuer, de jamais m'arrêter jusque quand c'est fait, quoi.
Vous diriez que c'est un combat, ça ?
Oui, mais si on ne réussit pas dans ce combat, dans cette chose qu'on s'est créée, dans le but qu'on veut dans notre vie, qu'on l'achève ou pas, c'est pas un problème. Tu as un futur dans ta tête, donc tu prends la vie du bon côté, tu la marches. Victorieuse.
Moi, si je vous parle de combat, Jean-Claude Van Damme, c'est parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas que sur les écrans que vous avez dû vous battre, que vous avez dû lutter. Contre quoi, contre qui est-ce que vous avez l'impression de vous battre au quotidien ?
Ma chance est que j'étais pas gâté physiquement.
Allons donc.
Non, j'étais pas un garçon physiquement, c'était une catastrophe, tu vois. Et y a mon père qui m'a emmené au karaté à l'âge de 9 ans. Et j'ai commencé avec des gars de 15, 16, 17 ans. Donc à l'époque, le karaté, c'était pas les mecs de 9 ans. Il y avait pas encore des classes pour enfants. C'était nouveau, tu vois. Donc j'ai grandi avec eux et ça m'a forcé à...
Vous êtes construit, en fait.
Avec eux, ouais. Et alors, je suis devenu bien. J'ai fait les poids haltères, le stretching, puis le karaté, puis la danse pour être un peu plus souple. J'avais déjà, avec une intuition certaine, que la danse pouvait m'aider.
Votre personnage dans ce film, Lucas, c'est un homme qui travaille dans le milieu de la nuit comme videur, mais surtout c'est un homme qui se bat pour sa fille. C'est la seule chose qui compte, et ça pose une question assez intéressante sur ce qui fait un héros de cinéma, je trouve. Jusqu'où un homme est prêt à aller pour défendre ce qu'il aime ? Vous iriez jusqu'où ?
Jusqu'à la mort.
Vraiment ?
Bien sûr, c'est la loi de la jungle.
Mais pour qui vous iriez jusqu'à la mort ?
Pour ma famille, pour mon rêve. Et c'est très important.
Le film, il s'ouvre sur un long plan séquence où on suit votre personnage de dos, en train de rentrer de son travail. Et au moment où son visage apparaît, on se dit qu'il a la tête de quelqu'un qui est revenu de tout. Qu'il a la tête d'un survivant. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le visage de ce personnage ?
Eh bien, un peu moi. Donc, dans un sens, j'étais portier quand j'avais ouvert ma salle de sport, le week-end. Pour faire de l'argent supplémentaire, comme on dit. Et j'ai appris donc ce métier sans savoir qu'un jour j'allais faire un film de ça. Et aussi, ce que j'avais perdu dans le film, parce que pour le film, c'était la manière de marcher, tu sais, une manière lourde. Je veux dire un peu, je veux pas dire bovin, mais tu sais, le mec normal, tu vois.
Mais quand vous le voyez, lui, son visage, qu'est-ce que vous arrivez à lire dans son visage?
Ben, c'est le peuple. Je prends le peuple avec moi.
Votre réalisateur, Julien Leclerc, il dit que les gros plans sur votre visage, ce sont des purs plans de cinéma. Et c'est intéressant parce que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend dans un film avec Jean-Claude Van Damme, son visage.
Ah oui, là, il a pas raté. Il a fait un travail énorme. Enfin, il a fait un très très bon travail, mais aussi il y a du talent. Et il faut pas oublier que les gens vont pas se rendre compte de ça, mais il a tourné qu'avec une caméra. Alors, quand t'as qu'une caméra, faut bien savoir où la mettre. Et si je me lève, comment il va me suivre, que l'écran soit toujours intéressant, sinon les gens s'embêtent très vite.
Et il arrive à saisir avec cette technique quelque chose qu'on n'a pas forcément vu chez vous dans les autres films?
Bon, j'étais un peu son jouet dans un sens, un jouet talentueux dont il a pu un peu écarter les pétales de la rose pour un peu l'embellir.
Ah,
ouais, donc il m'embellit la rose. Je dis bon, c'est un métaphore. Donc tu as une rose, tu écartes les pétales, elle s'embellit.
Dans un autre contexte, cette phrase pourrait avoir un tout autre sens.
Ah bon. Excusez-moi.
Ah non.
So he took the jewel and he opened up the light on it. Okay.
Il a ouvert.
Mais dans un sens, il m'a ouvert. Tu vois, c'est dur pour un acteur parce que je viens. Tu sais, je viens de Hollywood. Il dit, tu vas jouer un mec.
Et des films d'action.
Ouais. Il fait, écoute, il faut que tu fasses ton âge.
Et comment vous l'avez vécu, ce parti pris de l'émotion dans le film?
Grâce au script, grâce au directeur qui te met dans ce personnage, que quand le film est fini, il te faut 2-3 semaines pour revenir chez Monsieur Van Damme. C'est-à-dire boire un café normal, marcher normalement, ne pas avoir cette dépresse d'avoir perdu ma fille. Je me suis mis avec vraiment dans le personnage et c'est pour ça que j'ai l'air un peu différent.
Et il paraît que vous étiez un peu dérouté quand vous êtes arrivé, quand ça a commencé.
Dérouté dans quel style?
Bah, les acteurs, Samy Bouajila et Zeva Alviti, ils parlent de votre fragilité.
Ah oui. Oui. Peur de ne pas assez faire bien pour eux. J'avais une crème devant, j'avais des acteurs super, donc c'est une famille, c'est un groupe de gens, 50, 60 personnes. Nous, les matins, on se dit bonjour, on a son café ensemble. Alors quand tu fais des bonnes scènes d'acting, les gens qui travaillent tellement dur le matin, ils se lèvent avant nous. Donc, si on fait un bon travail, et ils voient que les acteurs vraiment se donnent à fond, ils se disent, tiens, on ne fait pas ça pour rien, quoi.
Mais jusqu'où à fond, Jean-Claude Van Damme? Jusqu'où l'émotion? Ça vous arrive, par exemple, de pleurer? Qu'est-ce qui vous fait pleurer?
Mais le problème, quand tu commences un film et tu entends le... Ça dépend. Action ou action. Tu vois, ça dépend de la scène, tu vois. J'oublie tout. Si mon directeur me demande de sauter, je vais le faire.
Et s'il vous demande de pleurer?
Un acteur est très fragile. On est tous fragiles, spécialement à ce moment-là. On commence le film, on est de cristal. Si on fait pas bien, il doit engueuler quelqu'un d'autre.
Vous avez déjà craqué, vous, sur un tournage?
Je crois, ouais, 2-3 fois. Parce que soit j'arrive pas à faire, je suis pas dans le moment, tu vois.
Et ça donne quoi?
Je mets un coup de tête dans les armoires. Blague à part, parce que je sais que l'équipe m'attend. C'est, ça coûte un film. Donc les gens, ils attendent. Mais ils sont là pour moi. Mais moi, dans ma tête, je me dis, merde, c'est la 5e, la 6e, la 7e. Un truc simple, tu vois. Et puis parfois, t'as des trucs compliqués, ça passe d'un coup. C'est incroyable.
Votre personnage, il finit toujours par se relever. Et je me demande, est-ce qu'il faut être Jean-Claude Van Damme pour toujours se relever?
Non, pour se relever, il faut avoir du cœur, c'est tout. Tout le monde peut se relever. Il y a des gens qui ont fait des choses incroyables, qui sont beaucoup plus importantes que les nôtres. Des enfants, des adultes qui ont combattu le cancer, qui partent en Afrique s'occuper des enfants ou des animaux en Tanzanie. Et des gens qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants que moi sur la Terre. Mais j'ai toujours aimé le cinéma et grâce au cinéma, je connais des gens. Et grâce à ça, je peux peut-être aider aussi un peu dans ma vie, tu vois.
Celle qui se relève toujours dans cette émission, et c'est pas faux, toute l'année de l'avoir malmenée, sans doute la connaissez-vous, Jean-Claude, c'est la culture et son actualité résiliente. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 29 juin?
Terminus, nous vous invitons à descendre. À bientôt sur les lignes RATP. poésie sur toute la ligne. Hier, le Grand Prix Poésie RATP, présidé par le chanteur et écrivain Raphaël, a révélé ses 10 lauréats de l'année. Le plus jeune a 6 ans, le moins jeune 94. Toutes et tous verront leurs œuvres affichées cet été sur l'ensemble du réseau de transport. Notre préféré à nous, celui de Anne Brunterch de Paris. « Enfant », écrit-elle, « nous doutions parfois du vent, jamais de nos ailes, cœur avec des ailes. » Puccino en grande pompe aujourd'hui et demain le rappeur Oxmo célèbre à l'Olympia ses 20 ans de carrière avec deux dates anniversaires. En 1998, il sortait Opéra Puccino, son premier album incontournable classique du rap français. Pour l'occasion, l'ancien punchliner du collectif Time Bomb ressort sa poésie rugueuse et propose une version remasterisée de son album avec 5 inédits. Ça, c'est que chi.
Tout est blanc, tout givré.
Montreux en main dès aujourd'hui, la 52e édition du très prestigieux Montreux Jazz Festival va sérieusement secouer les vallons suisses, car l'événement aligne la programmation plus chic de l'été. On attend notamment Étienne Dao, Charlotte Gainsbourg, Nick Cave, Iggy Pop, Nerd, Flavien Berger ou Massive Attack, ça claque. Jean-Claude Van Damme, invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour son rôle dans Lucas, film d'action, ce genre dont vous êtes devenu l'une des incarnations avec des films comme Bloodsport, Universal Soldier, Time Cop. Pour vous, autant en tant que spectateur qu'acteur, réalisateur, c'est quoi un bon film d'action ?
Un bon film d'action, d'abord, il faut toujours une bonne histoire. S'il n'y a pas de bonne histoire, donc moi j'ai fait des films avec des histoires un peu... Enfin, soit. J'en ai fait des bons, j'en ai fait des mauvais, j'en ai fait des millions.
Et qu'est-ce que c'est une bonne histoire pour vous ?
Une bonne histoire, c'est quand, tu sais, les pages, tu les avales. Si ça bouge pas après 10 pages, 11 pages, il y a un problème déjà, tu vois. Donc, un bon script, une bonne histoire, ça touche les gens. Hein. C'est comme une... Je te fais une blague à la con, excuse-moi le mot, c'est ouais, con. Il y a personne qui va rigoler. Et les gens vont dire, mais c'est un con ce mec. Tu vois, mais si je fais une blague intéressante, super, les gens vont rigoler, putain, le gars, hein, ok. Excusez-moi. Donc c'est la même chose, un bon script, on s'attache, on écoute. Alors en plus de ça, il faut un directeur qui comprenne ce script, soit il l'a écrit, ou il l'a revisé, tu vois, comme s'il est vraiment dans ce script. Un bon directeur se met dans l'histoire, et il est le caractère de tout le monde.
Avec quel film est-ce que vous avez grandi ?
J'ai grandi avec des films super, j'ai grandi avec des films comme La Grande Vadrouille.
Ah c'est vrai ?
Ah bah oui, j'ai grandi avec des films incroyables.
Vos icônes de cinéma ?
Manon des Sources, il y avait des films formidables. Lawrence of Arabia.
Lawrence d'Arabie.
The Godfather, film français.
Le Parrain.
Bah oui, mais aussi il y a des films français qui sont louches, les uns les autres. À l'époque, j'étais fou de ce film.
Mais vos icônes de cinéma, vos idoles, qui sont-elles ? Jean-Claude Van Damme.
Il y a tellement de bons acteurs et de bonnes actrices. Je vais te dire, j'adore Gabin.
Mais vous avez bien un modèle, oui, c'est
non,
ça.
Non, mais j'avais un modèle. Quand j'avais 17, 18 ans, j'adorais Belmondo. C'était la castagne, il avait un beau corps. Alain Delon, tu sais, c'était les gangsters de l'époque.
Ouais,
et
on
tout.
Pense un peu aux samouraïs, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et après ça, c'était bon, Charles Bronson, tu vois. Et puis avec l'âge, t'apprécies un Gabin. T'apprécies mon temps, les goûts changent. C'est comme quand t'écoutes Jacques Brel à l'âge de 20 ans et t'écoutes Brel à l'âge de 50 ans, tu l'entends la chanson, mais tu la sens différemment.
Ce qui est intéressant et ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que vous avez grandi dans les livres. En fait, votre père était libraire, je crois. Quel est le livre de votre enfance, Jean-Claude Van Damme ?
Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est Tintin. Tintin est belge et en plus, il existait le vrai Tintin. The real Tintin, ok. Et alors,
c'est comme ça qu'on m'appelle, moi, Tintin.
Voilà.
Je m'appelle Augustin.
Alors, Tintin,
ouais, Tintin.
Augustin.
Ouais. Tintin. Oui, mais Tintin, si vous voulez, Jean-Claude.
Écoute, Tintin. Donc, je rentrais de l'école et comme j'étais le garçon, tu sais, pas trop, tu sais, le garçon qui était pas physiquement, j'étais un peu à part, tu vois. J'étais le black dog.
Ah, je vois tout à fait.
Ok, on s'entend bien. Alors, je rentre à la maison, je fais mes classes vite et je monte dans cette salle à manger, mais je prends le bouquin. Mon père dit, fais attention, ne l'abîme pas. Ça doit se vendre, tu vois. Et alors, j'avais les premiers Tintins et j'étais vraiment... J'ouvrais le bouquin, mon visage était entre deux pages et j'étais en Afrique, j'étais dans le Middle East, j'étais partout avec Tintin et j'ai appris un peu visuellement. Mais attention, les dialogues Tintin sont très intéressants avec son Milou.
Ce que vous nous dites, en fait, c'est que c'est aussi avec Tintin que vous avez commencé à rêver d'Amérique, peut-être.
Oui, Tintin en Amérique, Tintin partout. Mais j'ai rêvé très jeune. J'ai rêvé très jeune de partir, mais j'avais un rêve qui était impossible.
C'était quoi?
Je voulais une planète parfaite déjà à l'âge. Tu sais, j'étais jeune, je pensais qu'il y avait, je savais qu'il y allait avoir un problème plus tard avec les gens, les animaux, la nature, tout ça, mais alors je faisais des vœux tous les jours pour que tout se passe bien entre les êtres humains, les animaux. J'étais un grand fan de Tarzan, à la TV, Tarzan, tu vois.
Ah bah, je vois bien. Hein.
Alors quand j'étais avec Tarzan à la TV, je savais que plus tard, il y aura un problème de overpopulation.
Surpopulation.
Ouais, je le savais.
Quand vous êtes arrivé à Los Angeles pour la première fois de votre vie au début des années 80,
ouais,
qu'est-ce que vous avez ressenti?
Ben, j'étais un peu perdu. Parce que tu viens dans un pays, tu connais personne, tu parles pas la langue. Et je sors de l'aéroport et tu as les portes donc coulissantes qui s'ouvrent. Et qu'est-ce que je vois? Une limousine, mais avec un bathtub, tu sais,
une baignoire.
Les jacuzzi qui mettent là. Et j'ai vu ça, et avec une antenne, tu sais, enfin, limousine, quoi, on n'a jamais vu ça. Et je dis, this is my country. C'est mon pays.
Fallait y croire quand même, hein.
Ouais, et t'as personne, tu sais pas qui parler, tu sais pas quoi faire. C'est terrible, avec $3,000 dans la poche.
Et vous y avez cru?
Ouais, et je suis parti donc en Amérique avec cet esprit de toujours pouvoir me transformer pour le meilleur.
Mais là, vous êtes en train de faire la définition de la pop culture pour moi, toujours savoir se transformer. Parce que force est de constater que Jean-Claude Van Damme, c'est pas seulement le rêve américain, c'est aussi une incarnation de la pop culture culte, célébrée dans le monde entier, disséminée à l'infini.
I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today.
Il accuse 82 kilos de muscles pour 1m78. Il est champion d'Europe de karaté. Il a derrière lui une trentaine de films. De Bruxelles à Hollywood, il est sans doute le Belge vivant le plus célèbre dans le monde. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van
Damme. Jean-Claude Van Damme. Monsieur, qui dois-je annoncer?
Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Valmont.
Le Burlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Je ne crois pas aux coïncidences. Je prétends que tout sur la Terre, sur la vie, sur l'univers, tout a une raison.
Come on, Cuffius. Van Damme is a man.
Oh my God, oh my God, oh my God. Jean-Claude Van Damme. I didn't know he was in this movie. He's so hot.
Les gens voient Van Damme en tant Monsieur Muscle, tout ça. C'est super, le karaté, les arts martiaux. Mais aussi une force intérieure que j'ai acquis avec les années.
Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo exceptionnelle. Je réserve une surprise à mon pote youtubeur John Rachid. On va lui faire rencontrer son idole Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme.
Il y a des gens qui n'ont pas réussi.
Jean-Claude Van Damme.
Parce qu'ils ne sont pas aware. Moi je suis aware, tu vois. C'est un exemple, je suis aware.
Wow, Jean-Claude est nos limites.
Est-ce qu'il y a un prix à payer pour être Jean-Claude Van Damme?
En fait, tu veux ce que tu veux, mais je me sens vraiment bien avec les gens. J'aime bien les gens, tu vois. Je suis le mec qui va, je sors d'un studio, les gens vont suivre les producteurs, je vais m'arrêter avec un valet parking, je vais m'asseoir sur le trottoir avec lui et je parle une heure, je sais pas, j'aime bien les gens.
Mais c'est vrai que vous avez été à certains moments l'objet de moqueries, vu comme une sorte de clown. Comment on fait pour passer outre, pour continuer à aller de l'avant? On s'en moque en fait.
Non, mais je voulais dire, il faut être conscient de la chose. Et c'est vrai que conscient de la chose, c'était comment le prénom du monsieur qui... Ardisson, c'est ça?
Thierry Ardisson.
Il a fait aware, je dis non, aware, je dis non, not aware. Aware, you know?
Aware.
Et c'est parti bien, tu vois.
Et aujourd'hui, quand vous savez que vous allez enchaîner les interviews, vous êtes à l'aise ou est-ce que vous sentez qu'on vous attend au tournant?
Oui, en étant conscient. Je viens sur une table et tu sens, tu sais, quand t'es très sensible et tu aimes les gens, dans un sens, on va pas en parler de la science, mais tu sais les pénétrer, tu sais, tu sens les ondes. Quand tu es très sensible et tu viens à une table, tu sens déjà les gens qui vont t'embêter, mais pas méchamment.
Et là,
hein.
Vous vous sentez bien, là.
Très bien.
Très bien.
Directement, quand t'es venu, c'est un mec super et tout, il va pas. Mais même s'il y a des gars qui sont durs avec moi ou serrés dans les interviews, de nos jours, ça m'excite.
J'ai une question.
Mais pas physiquement. Hein. Donc, n'ayez pas peur, les gars. Je vous vois demain. Il n'y aura pas de cognasse ni de coup de tête.
Ah, bah là, vous me rassurez, Jean-Claude, et surtout aujourd'hui.
Ouais, il faut s'amuser aussi. Hein.
Est-ce que vous êtes le même en français et en anglais?
Non, parce que l'anglais est plus direct. Yes, no, let's go, no problem, bla 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 bla.
En même temps, ce que je trouve intéressant, c'est quand même cette tension entre plusieurs langues, plusieurs cultures chez
mais
vous.
Mais attention, c'est très important d'avoir de la culture. Tu sais, en Amérique, ce qui se passe, c'est quand t'as un gosse qui a un problème, un chagrin d'amour par exemple, ou quelque chose, ben, il est cassé, le garçon et la fille. Donc en France, si t'as un chagrin d'amour par exemple, tu peux un peu te retourner sur ta culture, aller au musée, tu sais d'où tu viens, tu connais tes racines, il y a même des bouquins qui te disent des lettres d'amour de Napoléon à Joséphine, tu vois, donc ouais. Tu comprends, tandis qu'en Amérique, tu te retournes, tu veux te reposer, tu n'as rien à voir, alors tu vas sur les... Oh, ils ont été élevés avec des Barbie et des jouets, trucs. Ils n'ont pas d'histoire à part The American Indians, tu vois.
En fait, vous êtes en train de nous dire que vous êtes plus européen qu'américain, Jean-Claude.
Non, j'aimerais bien que la jeunesse américaine aurait la culture française, la culture italienne. Ça changerait un monde énormément. Quand tu sais d'où tu viens et t'as une culture, ta race est forte, ton esprit... Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Mais la Belgique, vous n'en parlez pas. Alors, vous êtes belge?
Non, mais la Belgique a une culture. Mais j'aime bien la France parce que la Belgique, ils n'ont pas aimé Bloodsport. Et la France m'a mis au top. Alors, ça serait difficile. Brel, c'est la même chose. Brel a essayé en Belgique. Il est venu en France. Ils l'ont mis au top.
Ce qu'il y a de plus
John
belge
Hallyday.
En vous, c'est peut-être l'autodérision, c'est peut-être l'humour.
Oui, parce que la vie est courte. Hein.
Vous sentez que la Belgique est fière de vous?
J'espère.
Johnny, il paraît que vous êtes fan.
Énorme. Énorme. Énorme, énorme. On a passé des moments ensemble incroyables. À Los Angeles, on a fait des randonnées en moto, lui et moi, sur les canyons, tout ça. Et ouais, c'était super. Un mec super.
Qu'est-ce qu'on a perdu avec lui?
Eh ben, tu vas me prendre pour un... Mais pas trop. Parce que ses chansons sont là. Donc, Johnny sera toujours là, donc il a laissé, lui, il n'est pas parti, ses chansons sont là.
Mais vous savez quoi? Juste pour vous faire plaisir, parce qu'on est comme ça,
ouais.
Dans Boomerang, parce que c'est la dernière de la saison, parce que c'est son année aussi à Johnny, parce que c'est une belle chanson, on écoute Ma Gueule sur France Inter, dans Boomerang, évidemment, dernière de la saison, Fio Fio.
Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? On ne va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait plutôt des amis.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Mais ce qui frappe, je vais vous dire, c'est pas son tour de bras ou son torse, ni même sa main. Ce qui frappe, c'est son visage, qui est assez désarmant, avec ses grands yeux doux, comme une pluie d'été, derrière des petites lunettes, son sourire en coin, parfois un petit peu gêné, ses rides aussi, si joliment dessinées. Il en a une gueule, bien plus douce qu'il n'y paraît, avec son t-shirt bleu et son jean moulimoula. Ce matin, Jean-Claude Van Damme, invité de Boomerang pour la dernière de la saison et pour le film Lucas de Julien Leclerc qui sortira à la rentrée. Ce film où vous jouez, on le disait, un homme taiseux, mystérieux, qui se trouve embrigadé malgré lui dans une affaire crapuleuse, ce qui va le conduire à mouiller sa chemise et à se battre. Quel travail physique est-ce que c'est, un film comme celui-là? À quel entraînement est-ce que vous avez dû vous soumettre, précisément?
Je me suis entraîné comme d'habitude, j'ai toujours la forme, je m'entraîne toujours pour garder une bonne forme, tu vois, parce qu'avec quand même des scènes physiques importantes. On a fait une scène où il y avait, c'était 5 minutes de shot, 5 minutes plus, one shot, une take.
Une prise.
On en a fait 52. La 52e était la bonne, mais tu t'imagines 5 minutes d'action, courir, s'abaisser, enfin tout ça.
Ah bah non, moi je m'imagine pas du tout.
Non. Ouais, moi c'est non plus à l'époque, je me dis non, c'est pas possible, arrête Julien, tu vas me tuer.
Votre réalisateur, il dit que vous feriez tout pour un plan, tout.
Ben oui, quand on rentre dans une histoire et il y a une scène de cette histoire, oui, tout se fait. Ben oui.
Jusqu'où vous êtes allé? Le pire que vous ayez jamais fait pour un film, c'était quoi?
Mais dans tous les films, je me mets à fond. Oui, j'étais loin.
Vous avez parlé de la danse tout à l'heure, oui. Jean-Claude Van Damme. Qu'est-ce qui vous a incité à pousser la porte d'un studio de danse? Vous vous en souvenez quand vous étiez petit?
J'ai vu la danse à la TV et je me suis dit, comme je connaissais le karaté, je m'entraînais beaucoup. Je me dis, mais attends, là, le gars, il triche pas avec sa hanche, il fait tout droit, donc c'est plus dur, il a moins d'assises, il faut plus d'équilibre. Mais ils ont des cuisses, ils ont des culs et des cuisses, tu sais, les fessiers, c'est important pour les coups de pied. Des gars comme Nureyev et Baryshnikov. Et je me dis, tiens, si je vais là-bas, et en plus, ils ont du ballon. On appelle ça le ballon quand tu sautes très haut, tu vois. Ils font des mouvements pour bien sauter. Donc j'ai mélangé, j'étais à la danse, évidemment. C'était super, mais il y avait plus de filles que de garçons. Il y a plus de filles que de garçons. Donc, et on partageait les mêmes vestiaires. Comme ça, c'est super. À l'époque, moi, j'avais 18 ans. Et je voyais ça, c'était un monde différent.
Et vous n'avez pas voulu être danseur?
Non, non. Et alors donc, je suis reparti au karaté. Mais eux me voulaient... Il y avait Béjart qui me voulait à Paris.
C'est pas vrai.
Pour danseur, bien sûr. Et quand je commençais les petits, les pas deux, mes triceps étaient trop lourds.
Faites pas ça, ça me fait très peur. Faisait... Quand vous bougez
alors
vos triceps.
Alors j'ai dû faire un choix entre, tu sais, le ballet, mais j'étais vraiment bien en ballet, ou le karaté, les poids haltères, et je suis resté évidemment sur cette rail.
Sur ce rail, dis donc.
Sur ce rail.
Vous auriez eu une carrière tout à fait différente, là, si vous aviez travaillé pour Maurice Béjart.
J'aurais réussi, de toute façon, un des plus grands. Hein. J'aurais été un des plus grands danseurs.
Ah, c'est vrai?
Classique, bien sûr.
Vous en êtes sûr?
Certain.
Quel art est-ce que c'est pour vous, la danse?
C'est un art, c'est aussi une histoire. C'est du maintien, c'est noble, c'est la danse, c'est la racine de l'être humain. La danse et la musique, on peut faire et on est parti avec 2-3 gardes.
Ah bah ça y est, moi j'ai un peu bougé mon corps.
Voilà.
C'est proche d'un art martial pour vous, la danse?
Oui, parce qu'il y a du mouvement, you have beats, il y a du rythme, il y a des. Et c'est la même chose pour l'entraînement. D'ailleurs, quand tu vois des gars comme George Foreman, Muhammad Ali, ou même Mike Tyson, ils s'entraînent dans les salles de sport avec la musique, tu sais, boum, 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 pa, 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 pa. Il y avait, tu sais, il y a une ambiance.
C'est super, ça veut dire qu'un combat, c'est comme une chorégraphie, en fait.
Un combat, c'est comme une chorégraphie, mais attention, il faut bien répéter la chorégraphie, que ça devient vraiment naturel.
Les danseurs, ils disent souvent qu'ils ont mal, toujours mal. Est-ce que c'est votre cas, vous aussi?
Qu'on a mal?
Au corps.
Les danseurs,
ouais.
Ah, mais quand tu fais des mouvements et tu t'entraînes tous les jours, et les genoux, et les chevilles, et les pieds, ah ouais.
Donc vous aussi?
Bien sûr, on a tous ces bobos. Tu payes, tout le monde paye.
Et qu'est-ce qui vous fait mal, le plus mal, dans la vie, vous?
Je sais pas, ce qui se passe dans le monde, ça devient trop, mais...
Bah, je pensais que vous alliez me dire le grand écart, parce que c'est vraiment flippant quand vous faites le grand écart.
Non, mais enfin, je vois un peu trop. Dans ma tête, j'ai toujours 16 ans. Mais je me sens vraiment 16, 17 ans comme un enfant, tu vois. Mais seulement le corps, il a la cinquantaine, tu vois. Donc il faut se marier, il faut comprendre son corps et s'ajuster.
Franchement, moi j'aimerais bien être comme vous à 50 ans.
Ouais, moi aussi.
Merci Jean-Claude d'être venu faire un tour dans cette émission un peu spéciale, hein, la dernière de la saison, avant notre rentrée des classes qui aura lieu le 27 août.
On a fait deux interviews, on en a fait un.
Une seule. Ah bon. Vous retrouverez cet été la formidable Marie Sauvion, que je connais bien, qui vous servira chaque matin une bonne tasse d'été. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et merci à toute l'équipe de Boomerang, à qui je voudrais maintenant m'adresser avec votre complicité et votre amitié, si vous le voulez bien. Ne me dites pas que j'ai pas d'âme, monsieur Vandamme, quand mon cœur fait boomerang, boom boomerang, quand le matin, mon téléphone sonne et que dans les mots de Léo, bio, la culture se fait comme personne. Léonard, mon traquenard, toi qui avances à tâtons quand il s'agit de chiner des sons. Léonard avec Lola, dont la fille s'appelle Una, Lola, ma réale, tu sais que t'es de la balle pour tes réalisations où il y a un peu plus que du son, où il y a de l'action et de l'émotion, où il y a le souffle d'une voix, le silence, etc. Tout ce qui fait une émission, quand mon cœur fait boomerang, boom boomerang, même quand ça tangue. Merci Lola et Valentine, ma cocaïne, moins pour tes rails que pour quand on déraille. Valentine est ta ligne, tes invités, que tous les jours de cette année tu as su renifler et respirer. Varier les genres, varier les arts, varier les tons, les sexes, les publics, parce qu'il faut que ce soit éclectique. En vrai, c'est toi qui es magique, c'est toi ma cam, mon cœur, ma clique, Valentine, ma vitamine. Merci Maud Ventura, aucun artiste n'a de secret pour toi, merci pour tes mix, même quand t'es exsangue, quand ton cœur fait boomerang, boom boomerang, Jean-Baptiste et tes tours de piste, tes chansons qui font tout dans cette émission, allez, on fait une cinquième saison, merci aux autres, que je pourrais pas citer, à mon Pierre surtout, qui pour nous est à peu près tout, avec sa taille de guêpe et ses habits trop courts, avec ses yeux curieux, mon Dieu je l'aime d'amour, Jean-Claude vous les connaissez pas, Léo, Lola, JB, Pierre, Valentine, Maud, mais je suis sûr qu'en vrai, vous les aimez déjà. Merci à vous. Boomerang. France Inter. Boomerang dans mon cœur. Cœur avec les mains, Jean-Claude. Cœur avec mon âme, Jean-Claude Van Damme. 9h et des poussières sur France Inter. Je dis bonjour à ma mère. Je sais, Sonia, ce que tu dis dans ce cas-là. Tu dis, Oggy, faut pas que ça traîne. Je te réponds, Soso. Soso. À la prochaine.
Oui, Augustin.
Et merci à Juliette Armanet pour ce clin d'œil aussi. Et merci à tout le monde, à Mathias Athéon ce matin, et toutes les équipes techniques de Radio France. Sonia, on se retrouve à la rentrée quand même, fin
cœur
août.
Cœur avec mes mains, comment tu dis ça?
Cœur avec mes mains.
Cœur avec mes mains, Augustin, salut.
Ah, vous, il ne faut pas que vous le fassiez. Non, moi, déjà, c'est
embarrassant. En réalité, je pense que j'ai trop de respect pour le rap.
Et pour vous-même.
Salut, Augustin, salut. Et bravo.